suivre Jésus quand cela devient difficile. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de faire une promesse à quelqu'un, une promesse sincère, et finalement de ne pas la tenir? Alors moi je confesse, quand j'étais ado, j'ai souvent fait ça. Je te promets, maman, je termine ma partie de jeu vidéo, et après je range ma chambre. Une promesse sincère sur le moment, qui n'a pas été tenue. Mais envers Dieu, dans notre vie de prière, est-ce que cela nous arriverait aussi? Je te promets, Seigneur, je ne tomberai plus jamais dans ce péché-là. Je te promets, Seigneur, la prochaine fois que mon collègue me demande si je suis chrétien, je parlerai de toi. Je te promets. Des promesses non tenues, qui montrent notre incapacité à être vraiment fidèle, notre incapacité à être fidèle à nos promesses, à notre amour, à notre conduite, surtout quand cela devient difficile. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir pour des gens comme nous? Comment changer vraiment? Comment lui être fidèle? Comment suivre Jésus quand cela devient difficile? On va voir cela ce matin dans le texte de Jean, chapitre 18, versets 12 à 27, au travers des échecs de la vie de Pierre et de sa restauration. Je vous propose de le lire ensemble, l'Évangile selon Jean, au chapitre 18, les versets 12 à 27. La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un peu de braise pour se réchauffer car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples, sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Alors Anne l'envoya attachée à Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta. La situation est plus que tendue ici, dans ce texte. Jésus vient d'être livré par Judas aux responsables religieux. L'arrestation a failli mal tourner encore plus quand Pierre a dégainé son épée, a coupé l'oreille d'un des gardes. Mais Jésus s'est rendu sans livrer bataille et a gardé chacun de ses disciples. Aucun n'a été arrêté, même pas Pierre. Mais la tension reste quand même à son comble. Jésus est arrêté par la cohorte, le texte nous dit, le commandant romain et les chefs des Juifs, Juifs et Romains pour l'arrêter. Le risque est en effet élevé d'avoir une émeute des militants nationalistes le jour de la fête nationale, la Pâque juive, en pleine capitale à Jérusalem, et la situation est tendue. Jean nous raconte ici les événements de la vie de Pierre d'une manière très sobre, à la différence des autres évangiles, où il y a plus de détails, en particulier sur la réaction de Pierre, sur sa personne. Et c'est intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce que Jean, qui semble-t-il est l'autre disciple qui est présent dans ce texte, aux premières loges de cet événement, ne nous raconte pas tout sur Pierre, mais peut-être on le verra, mais le projecteur davantage sur l'œuvre et la personne de Jésus. Jean choisit aussi quelque chose de très intéressant ici. Il choisit de raconter l'événement du procès de Jésus et le reniement de Pierre en parallèle. Un peu comme dans une bonne série télé, vous savez, quand il y a deux événements qui se passent en même temps, mais en parallèle. Ici, il y a le procès auprès de Anne, l'ancien grand prêtre, et puis il y a le premier reniement de Pierre. Pendant ce temps-là, on revient au procès de Jésus devant Caïphe, le grand prêtre, et finalement, on revient au troisième reniement de Jésus, pour terminer d'ailleurs dans le texte suivant, sur le procès à nouveau de Jésus devant Pilate cette fois-ci. Donc on voit bien ici qu'on passe du procès au reniement, du procès au reniement. Et Jean le fait certainement pour une raison, non ? Certainement qu'il veut déjà nous garder dans l'intrigue. Il veut nous montrer que les deux récits sont liés, en quelque sorte que le destin de Pierre est lié à celui de Jésus le Sauveur. Et aussi que le reniement de Pierre sert comme un projecteur qui va mettre la lumière encore plus sur la gloire de Jésus, sur son attitude, sur l'œuvre qu'il a faite pour notre salut. On va regarder d'abord dans ce texte un procès scandaleux. Et rapidement, on va parcourir ce texte et regarder cinq raisons que Jean nous donne, qui nous montrent que ce procès, et c'est le début du procès de Jésus, est absolument scandaleux et injuste. Et on va voir aussi pourquoi est-ce que Jésus accepte cette injustice. Alors imaginez un match de sport où l'on vous donne le score avant même que le match ne commence. Ou pire, pour ceux qui ne sont pas sportifs, imaginez qu'on vous donne le gagnant de l'émission The Voice avant même que le tournage de l'émission ne commence. Ça voudrait dire que les résultats sont truqués, ils sont bidons, ils sont manipulés. C'est littéralement joué d'avance. Ce serait scandaleux, non ? Ici, c'est ce qui se passe avec le procès de Jésus. C'est d'abord un procès scandaleux car Jésus est condamné avant même d'être jugé, joué d'avance. Regardez au verset 12 à 14. La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus, l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il cite ici Jean chapitre 11. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Jean fait allusion ici, dans cette phrase de Caïphe, à ce qui s'est passé plus tôt au chapitre 11. Après la résurrection de Lazare, les responsables religieux juifs, ils avaient peur que tous croient en Jésus et que cela pose des problèmes avec les Romains. Et du coup, Caïphe avait prodigué ce beau conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. La solution était toute trouvée. On met Jésus à mort et ça réglera nos soucis. Et les autres responsables religieux étaient d'accord. Le passage de Jean 11, 7 chapitres précédemment, termine en disant « C'est ce jour-là que les Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. » Ce jour-là, ils prennent la décision de faire mourir Jésus au chapitre 11, plusieurs jours auparavant, avant même d'être jugé ici, au chapitre 18. C'est scandaleux, non ? Peut-être qu'on est trop habitué à entendre cette histoire, mais ça m'arriverait à moi ou à quelqu'un que je connais. C'est totalement scandaleux, c'est truqué. Et au chapitre 18, au verset 12, on commence en disant que Jésus est amené chez Anne, attaché, enchaîné, lié, comme un criminel. C'est joué d'avance. Il est condamné avant d'être jugé. Deuxième raison, ça continue, c'est un procès scandaleux parce que ici, Jésus est présenté d'abord au mauvais juge. Ce n'est pas le bon juge. Regardez au verset 13. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Il l'amène d'abord chez Anne, le beau-père du grand prêtre, et pas d'abord chez le grand prêtre. Alors, c'est vrai qu'en temps normal, vu qu'Anne avait été grand prêtre dans le passé, il aurait dû rester grand prêtre toute sa vie. Mais les Romains, eux, avaient compris qu'ils préféraient changer régulièrement de grand prêtre, comme ça, ils avaient plus de pouvoir sur le peuple. Du coup, les fils d'Anne sont devenus grands prêtres et à son tour son gendre ici, Caïphe. Mais pour le peuple, Anne était encore le vrai grand prêtre, le vrai souverain sacrificateur. Seulement, officiellement, légalement, auprès des Romains, il n'est plus grand prêtre et ce n'est pas la bonne personne pour juger Jésus. Et le fait que Jésus rencontre d'abord Anne ici dans l'évangile de Jean, avant les autorités juives officielles, nous montre que tout est fait pour manipuler l'opinion publique et que le peuple, qui a pourtant bien accueilli Jésus dans son entrée à Jérusalem, vous vous souvenez, branche de palmier à la main, on chantait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce peuple va se retourner contre Jésus et crier « à mort, crucifie-le, crucifie-le ». Ce n'est pas aussi le bon juge. Troisièmement, ce n'est pas le bon lieu d'un procès. Le procès, il devrait se tenir où ? Le procès juif, pardon, au temple. Mais ici, la description du lieu, ce n'est pas ça, c'est la cour de chez Anne. Et certains détails, comme le fait qu'une femme soit portière, nous montrent qu'on n'est pas au temple. Ce n'est pas le bon lieu pour un procès. Imaginez un instant, vous vous retrouvez chez un juge, chez lui, dans le salon, la veille de votre procès, pour une petite discussion en tête-à-tête. C'est pas scandaleux ? Je sais pas, moi en tout cas, je suis outré. Quatrièmement, un procès scandaleux parce que ce n'est pas non plus le bon horaire d'un procès. Le texte nous dit au verset 18, regardez, « Les gardes avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. » Et les commentateurs sont d'accord pour dire qu'à cette période de l'année, ça devait être le soir, car on n'allumait pas un feu en pleine journée, soit le soir, soit la nuit. Et d'ailleurs, quand le coq chantera, il sera 3h du matin. C'est pas trop l'horaire d'un vrai procès, non ? Comme si on le faisait en pleine nuit, à l'abri des regards. Scandaleux. Et cinquième raison, Jean continue, nous montre tous ces détails. Ce n'est pas la bonne forme pour un procès. Jésus lui-même va remettre en question la forme du procès. Au verset 19, le grand prêtre interroge Jésus sur ses disciples et son enseignement. Vous savez, même aujourd'hui, on n'arrête pas quelqu'un sans savoir pourquoi on l'arrête. Vous êtes d'accord ? On n'interroge pas l'accusé pour connaître son motif d'accusation. Jésus est déjà condamné, mais ils y cherchent encore la raison, la bonne raison, pour pouvoir le condamner. Et du coup, Anne pose des questions sur ses disciples, pour connaître le nombre de personnes qu'il suit, l'influence qu'il a vraiment, sur son enseignement également. Mais Jésus ne tombe pas dans le piège. Il répond qu'il faut demander à ceux qui l'ont entendu. Et si vous suivez dans les versets 20 à 24, Jésus pose cette question. Pourquoi m'interroges-tu ? Comme pour mettre en lumière l'injustice de son procès. Pourquoi est-ce que je suis là, devant toi, en pleine nuit, et tu m'interroges ? Puis cela va plus loin encore au verset 22, quand Jésus se fait gifler pour cette remarque. C'est vraiment un procès scandaleux. 5 raisons pour lesquelles ce procès est scandaleux. Et une raison, une question demeure plutôt, pourquoi est-ce que Jésus l'a accepté ? On va venir à l'application pour nous après, vous allez voir. Jésus l'a accepté car il veut accomplir la volonté du Père et nous sauver. Jésus, ici, ne subit pas. Il choisit. Il fait face. Il est déterminé à accomplir la volonté du Père, à boire la coupe du jugement à notre place. Souvenez-vous, quelques heures plus tôt, on l'a vu dans le message précédent, verset 11, Jésus dit à Pierre, « Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance, la coupe de jugement ?» que le Père m'a destiné. Jésus n'est pas surpris par les événements quand Pierre sort l'épée de son fourreau ou quand ici Anne l'amène dans un procès scandaleux. D'ailleurs, le réunion de Pierre, vous vous souvenez, en parallèle du procès, nous rappelle bien une image bien réelle que Jésus savait que ça allait arriver. Au chapitre 13 de l'Évangile, Jésus le dit même à Pierre. Pierre lui dit tout enflammé, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre ? Maintenant, je donnerai ma vie pour toi !» Et Jésus savait tout ce qui allait arriver, répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. » en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Jésus savait que Pierre le renierait. Il savait aussi que Judas le trahirait, qu'il serait arrêté, faussement accusé, qu'il mourrait sur une croix. Et Jésus l'a accepté pour accomplir la volonté du Père et nous sauver. Et finalement, vous savez l'ironie sur cette phrase de Caïphe, quand il dit « il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple », l'ironie c'est qu'il avait raison. Finalement, il a prophétisé, dit quelque chose de vrai dans son mandat de grand prêtre. Il fallait que Jésus meure. Il se trompait de raison. Ce n'était pas pour éviter le problème avec les Romains, mais c'était pour nous sauver. Jésus a promis qu'il serait venu nous sauver. Et Jésus a été fidèle à sa promesse. Par sa mort à la croix, il nous sauve de la mort éternelle pour que nous ayons la vie en lui. Un procès totalement scandaleux qui n'envisage rien de bon pour la suite des chapitres suivants dans Jean. Et c'était pour accomplir la volonté du Père et nous sauver. Alors, quelle application, me direz-vous, pour notre vie de prière ? Quand nous faisons face à une injustice, là, tout de suite, c'est plus scandaleux pour nous. Hein. Quelle est notre attitude ? Vous savez, laissez-moi vous lire juste, faire un petit écart et vous lire quelques versets que Pierre a dit dans son épître, au chapitre 2, versets 20 à 23. Il dit, « Si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Venant de la bouche de Pierre qui a pu voir Jésus, être fidèle jusqu'au bout, c'est quelque chose de fort pour nous. Et il dit que Jésus s'en est remis au juste juge, qui juge justement. Peut-être que quand nous faisons face à une injustice, bien sûr, il y a des circonstances où il faut en parler entre nous, où il ne faut pas laisser l'injustice demeurer, on est d'accord. Mais notre réaction dans notre cœur, c'est nous qui la tenons un peu quelque part entre nos mains. Est-ce que quand une injustice nous est quand on fait face à une injustice, nous, qui est scandaleuse, est-ce qu'on amène notre cœur dans la prière devant Jésus ? Peut-être on peut lui demander dans la prière, enlève cette injustice. Mais peut-être on peut aussi lui dire en plus, Seigneur, je m'en remets à toi. Tu es celui qui juge justement. Tu es celui qui peut prendre ma peine. Et je peux regarder à Jésus comme un exemple dans la souffrance qu'il a vécue. En tout cas, Pierre nous exhorte à cela. Ok. Un procès scandaleux. On continue avec un contraste affligeant. Déjà, Judas a trahi Jésus, hein, et maintenant, Pierre s'y met. Pierre, le zélé, s'y met. Et Pierre renie trois fois Jésus. Regardez, verset 17. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?»« Non, j'en fais pas partie. » Au verset 25 et 27, Pierre continue. Il se chauffe auprès du feu, on lui dit « Ne fais-tu pas partie toi aussi de ses disciples ?» Il le nia de nouveau « Je n'en fais pas partie. » Et finalement, un des proches de celui à qui il a coupé l'oreille, il a dû avoir peur à ce moment-là, à Pierre, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Non. Non. Et aussitôt, le coq chanta. Quel contraste déjà dans la vie de Pierre. Pierre, il est où ? On a envie de dire « Il est où ?» Il est où le Pierre zélé ? Le Pierre audacieux ? Le Pierre qui répond en premier aux questions de Jésus, qui n'a pas froid aux yeux, qui sort l'épée devant les gardes ? Il est parti où ? Le Pierre qui disait « Je donnerai ma vie pour toi ». Comble de l'ironie, laissez-moi vous dire le verset 18, Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Ben Pierre, il se chauffe avec les ennemis de Jésus, autour du feu, quand Jésus est dans son procès. En train d'être fidèle pour nous. Pierre ne l'est pas. Quel contraste dans la vie de Pierre. Mais quel contraste aussi entre la vie de Pierre et celle de Jésus. Et ce n'est pas anodin que Jean ait choisi, encore une fois, de mettre en parallèle les procès et le reniement. Et de ne pas donner trop de détails sur Pierre. Parce qu'on voit à quel point il y a un contraste affligeant pour Pierre, mais glorieux pour la personne de Christ. Et nous, on est aux premières loges ici pour le voir. Jésus se retrouve seul, mais reste fidèle, alors que Pierre le renie. Jésus reste calme, tout le long, il était déjà avant, remet son épée dans son fourreau. Pierre, lui, panique et prend peur. Pierre change d'attitude quand le vent tourne et quand ça devient difficile. Jésus, lui, ne change pas d'attitude. Il reste digne, courageux, obéissant au Père, dans une maîtrise parfaite de son comportement, et cela met en avant la gloire de Christ le Sauveur. Et d'ailleurs, dans le passage précédent, au chapitre 18 aussi, Jésus a affirmé sa divinité. Et regardez au Jean 18, versets 5 à 8, ici il y a un contraste saisissant avec notre passage. Quand les personnes viennent le trahir, il dit, Jésus leur dit, c'est moi. Finalement, verset 6, lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent pas à terre. Et encore verset 8, quand ils dirent, qui cherchez-vous? Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Littéralement, je suis. Et là, on retrouve Pierre, juste après, qui à trois reprises, littéralement, dit, je ne suis pas. Tu fais partie de ses disciples? Non, je ne suis pas un disciple. Je ne fais pas partie d'eux. Je ne suis pas. Je ne suis pas un disciple. Quel contraste. Pierre, qui pensait suivre Jésus jusqu'à la mort, a besoin d'apprendre qu'il a besoin de puiser ses forces en Jésus et pas en lui-même. Le pasteur John MacArthur a dit que le reniement de Pierre sert de mise en garde à tous ceux qui seraient tentés de prétendre avec assurance qu'ils suivraient Jésus partout où il les conduirait. On a besoin de sa force pour le suivre, qu'il donne sa vie pour nous afin qu'on puisse vivre la nôtre pour lui. Le contraste dans la vie de Pierre illustre parfaitement cela. Écoutez bien, même le plus zélé des disciples ne peut le suivre par ses propres forces ou par son propre zèle. On se croit peut-être meilleur que Pierre, j'oserais pas la comparaison. Parfois, malheureusement, peut-être comme Pierre, on a besoin, pour saisir pleinement la grâce, d'arriver d'abord au bout de nous-mêmes. On a besoin de prendre conscience qu'on est incapable, par nous-mêmes, de suivre Jésus. On a besoin de sa puissance dans nos vies. Car de notre nature, comme Pierre, nous sommes pécheurs. Mais Jésus, lui, est fidèle et juste en toutes circonstances. Et la bonne nouvelle, c'est que sa justice et sa fidélité peuvent être comptées pour nous. La tentation, vous savez, qui rattrape Pierre ce soir-là, dans cette cour, dans ce temps difficile, nous rattrape aussi quand nous comptons sur nos propres forces. Lorsque nous nous croyons forts. Lorsqu'on se sent prêt, après peut-être un temps de prière, à dire « Je te suivrai partout !»« Je donnerai ma vie pour toi !» Mais quand le moment difficile arrive, si nous ne puisons pas nos forces en lui, on est incapable de dire « Je suis un disciple, je lui appartiens. » Quelle ironie, Pierre qui a dit « Je donnerai ma vie pour toi », il avait besoin de comprendre que c'était Jésus qui donnerait sa vie pour lui. Pierre avait besoin que Jésus donne sa vie pleinement pour lui avant de pouvoir donner la sienne pleinement pour Jésus. Il fallait la mort à la croix, il fallait la résurrection. Il fallait l'envoi du Saint-Esprit avant que Pierre puisse vivre par la puissance de l'Évangile. Et nous aussi, on a besoin de nous rappeler de cela. L'Évangile, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous afin qu'on puisse la vivre pour lui. Même quand cela devient difficile. Car on peut compter sur ses forces et pas sur les nôtres. Timothy Keller, dans son livre sur le mariage, nous dit ceci. Voici le message de l'Évangile. Nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous n'oserions l'avouer. Mais nous sommes également bien plus aimés en Jésus-Christ que nous n'oserions l'espérer. Alors, quelle application pour notre vie de prière? Vous savez que la prière est une manifestation de notre dépendance envers Dieu, que l'on a besoin de lui, qu'on n'y arrivera pas par nos propres forces, que quand sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il y a quelqu'un qui a dit à un auteur anonyme, que quand l'homme fait, c'est l'homme qui fait. Mais que quand l'homme prie, c'est Dieu qui fait. Est-ce que l'on prie simplement quand tout va mal? Simplement au moment où on est face à une tentation ou à une difficulté comme ici? Ou est-ce que notre vie de prière est profonde au point où l'on se souvienne qu'à chaque instant, sans lui, on ne peut rien faire? Un process scandaleux, un contraste affligeant. On va avoir un petit bol d'air là qui va nous faire du bien. Une restauration complète. À la suite du texte qu'on a lu ce matin, dans Jean 18, on n'entend plus parler de Pierre dans l'évangile de Jean. jusqu'à la résurrection de Jésus. Tout le focus est mis sur la passion de Christ, sa mort et sa résurrection. Et à la résurrection, on retrouve Marie de Magdala qui va prévenir Pierre et Jean. Ils courent ensemble au tombeau. Pierre, qui est encore assez audacieux, rentre le premier. Pierre est tombé et a renié le maître dans la cour d'âne. Mais il reste là, parmi les disciples. Et Jean nous partage dans les chapitres 18 à 20 le dénouement pour la vie de Jésus. Il y a sa mort, puis il y a sa résurrection, il apparaît aux disciples. Mais le récit de Pierre, il reste comme en suspens. Dans les autres évangiles, on voit Pierre pleurer amèrement de larmes de repentance. Mais Jean, lui, choisit de garder le suspense jusqu'à la fin de l'évangile. Et on retrouve Pierre dans le prologue au chapitre 21. Pierre retourne à la pêche avec les autres disciples. C'est son métier, c'est ce qu'il faisait habituellement avant de suivre Jésus pendant 3 ans. Et voilà qu'alors qu'ils sont dans la barque, Jésus apparaît sur le rivage et leur permet de faire une pêche miraculeuse. Jésus montre à nouveau sa puissance aux disciples. Le Christ ressuscité a toute puissance et autorité. Il est celui qui change les vies et il est celui qui va changer celle de Pierre. Lisons juste 2 versets au chapitre 21, versets 15 à 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Ah, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. « La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus restaure Pierre. Une restauration qui est entière, 3 fois, comme pour son reniement, à la mesure de son péché, dans un sens. Elle est publique, devant les disciples, et ça c'était important, pour le restaurer dans son ministère aussi. Elle est aussi accompagnée d'un envoi en mission, quand Jésus lui dit, « Nourris mes brebis ». Jésus lui pose 3 fois la question, vous avez vu ? M'aimes-tu ? En gros, Pierre, ton amour, il est toujours aussi présomptueux au départ, du genre « Je donnerai ma vie pour toi. » Continue, « Pierre, m'aimes-tu ? Car tu auras besoin de m'aimer pour me servir, pour me suivre quand cela deviendra difficile. » Et quand Jésus pose cette question, « M'aimes-tu pour la 3e fois ?» Jean est attristé. Comment ne pas penser aux 3 reniements lorsqu'il pose la question la 3e fois ? Nous, on le pense, imaginez Pierre. Alors, est-ce que Jésus est sadique ici de lui poser cette question-là ? Est-ce qu'il veut que Pierre se sente mal, le rabaisser, qu'il paye pour son reniement ? Pas du tout. Jésus veut que Pierre ait l'occasion de se repentir et d'accueillir le pardon, la grâce, la restauration que Jésus lui offre. Une restauration qui est complète. Là, ce serait mettre en pratique un aspect de la prière qu'on appelle la prière de repentance ou de confession. Pierre confesse ici quand il dit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. » Alors, dans Luc, par exemple, dans les récits, on sait que Jésus a même eu ce regard vers Pierre au moment où il a renié pour la 3e fois. En tout cas, Jean nous le rappelle ici que Pierre l'a dit au Seigneur « Seigneur, tu sais tout. » Pierre est conscient que Jésus savait qu'il le renierait, que Jésus connaissait son cœur. Mieux que Pierre ne connaissait le sien. Et c'est la même chose pour nous. Sommes-nous conscients que Jésus connaît nos luttes ? Il connaît tes luttes, tes faiblesses, tes péchés cachés, ton cœur, le meilleur, le pire. Rien ne lui est caché et pourtant, il nous aime et veut nous faire grâce. Et si tu es tombé, ce texte devrait t'encourager à ne pas penser que cela est terminé pour toi. Car Jésus veut te relever et te restaurer complètement. Jésus, c'est ce qu'il fait avec Pierre. il le restaure entièrement, publiquement devant les autres, et l'envoie en mission, en disant « Nourris mes brebis ». En gros, je t'appelle à me servir, en tant que leader même dans l'Église. Jésus, finalement, a préparé Pierre pour son rôle de leader et de responsable. Peut-être pas de la manière dont on l'imagine, nous. Il l'a préparé en faisant passer par l'échec et la réalisation que sans Jésus, il n'est capable de rien. Et chose extraordinaire, Dieu va même utiliser le péché de Pierre dans sa vie pour le restaurer, afin qu'il devienne un leader qui n'est pas motivé par son propre zèle, mais qui est motivé en premier par l'amour de Christ. M'aimes-tu ? Il n'a pas dit « Tu donnerais ta vie pour moi ?» M'aimes-tu ? Je vous relis la citation de Timothy Keller. Voici le message de l'Évangile. Nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous nous aurions l'avoué, mais nous sommes également bien plus aimés que nous n'oserions l'espérer. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une promesse sincère à Dieu et de finalement ne pas la tenir ? Pierre, en tout cas, ça lui est arrivé. Reposons-nous plutôt sur les promesses de Jésus que sur les nôtres, car Jésus les accomplit parfaitement. Sa promesse de nous sauver, sa promesse de grâce, sa promesse de pardon, sa promesse de restauration, sa promesse de nous relever du péché, sa promesse de nous aimer à jamais, sa promesse qu'il nous donnera les forces pour marcher à sa suite quand cela devient difficile. On peut se reposer sur ces promesses-là, car elles sont vraies. Et elles seront tenues. Si on se repose sur ces promesses-là, de nos cœurs jaillira un zèle nouveau qui n'est pas basé sur nos efforts, mais sur sa grâce et qui ne mettra pas en avant notre propre personne. Mais comme Jean le fait dans ce texte magnifique, il met le projecteur sur Jésus, quitte à oublier un peu et laisser de côté certains détails de la vie de Pierre. Parce qu'il sait ce qui est important, c'est de voir l'œuvre de Jésus-Christ. Alors qu'on chemine vers la fin de notre série sur la prière, quelle meilleure façon de tout simplement nous laisser interpeller par ce texte ce matin ? C'est ce que je vous propose. Je vous propose qu'aucun d'entre nous on ne ressorte de cette pièce, sauf si vous ne voulez pas, bien sûr, je ne force personne. Mais je vous propose qu'on ne ressorte pas sans avoir fait une prière vraiment personnelle à Dieu. Pas une prière publique, on ne va pas demander à chacun un à un de prier à haute voix, vous inquiétez pas. Mais une prière sincère dans notre cœur, dans le silence de notre cœur. Et je vais vous donner quelques pistes de prières qui peuvent sortir de l'application de ce texte. Je vous encourage à en choisir une et de tout simplement prendre un temps de silence suite à cette lecture et de demander au Seigneur qu'il fasse ces choses dans votre cœur si c'est votre désir. En tout cas, on a l'occasion ce matin de prendre une pause dans notre quotidien pour venir aux pieds de Jésus, entendre sa parole. Et on veut aussi l'accueillir pour qu'elle porte du fruit dans notre vie. Parce qu'on sait que quand on ressort d'ici, les choses peuvent être difficiles et que sans lui, on ne peut rien faire. Alors aujourd'hui, alors que l'histoire de Pierre et sa chute, sa restauration résonnent dans nos cœurs, penses-tu peut-être pouvoir vivre ta vie sans Jésus ? Tu penses avoir les forces en toi-même pour vivre ta vie ? La vie chrétienne, c'est juste pour ceux qui n'en ont pas besoin. Jésus, ici, avec douceur mais patience, il t'appelle à prendre conscience qu'il est le seul fidèle et que sa fidélité peut être comptée pour toi si tu le veux. Et si c'est ton cas, tu peux choisir cette prière en demandant pardon à Dieu parce que ce procès scandaleux, il a vécu pour nous, cette mort scandaleuse à la croix. Tu peux accepter que cette mort, c'était lui qui payait ta dette. Et tu peux ainsi vivre pour lui. Peut-être tu es chrétien, tu es tombé dans un péché et tu te sens loin de Dieu, pas digne de marcher avec lui ou de le servir. Peut-être que Jésus ce matin, au travers de la restauration de Pierre, t'appelle à prendre conscience qu'il restaure, il fait grâce, il pardonne, pas juste les autres. Mais c'est une promesse pour tous ceux qui viennent à lui simplement, avec foi. Ton salut n'est pas basé sur sa fidélité, mais sur la sienne. Demande-lui pardon et accueille accueille pleinement son pardon et sa restauration, basée sur ses promesses à lui, il ne fait jamais défaut. Peut-être es-tu chrétien et tu essayes, comme moi je le confesse souvent, de marcher par tes propres forces. Tu fais des promesses à Dieu dans tes prières, dans les moments d'exaltation. Jésus t'appelle à prendre conscience que sans lui, tu ne peux rien faire. Demande-lui sa force, reconnais que tu as besoin de lui en toutes circonstances. Peut-être tu es chrétien et c'est difficile pour toi de reconnaître Jésus publiquement, comme Pierre. De dire à ta famille, amis, collègues, que tu es chrétien, que tu aimes Jésus, que tu suis Jésus. Demande-lui son courage ce matin. Reconnais que tu as besoin de lui. Et finalement, sur cet envoi en mission de Pierre, vous savez que Dieu appelle encore aujourd'hui des personnes à le servir de manière particulière, dans une responsabilité ici à l'Église, peut-être dans un ministère pastoral ou autre. Est-ce que Jésus t'appellerait à le servir ? En te rappelant bien sûr que son appel ne se passe pas sur ta force à toi, mais sur sa grâce et sa force, afin que toute la gloire le revienne et que le projecteur soit centré sur lui. Demande-lui de te diriger. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, tu sais que je t'aime, que j'ai besoin de toi. Je vous propose un temps de silence où chacun, on puisse faire une de ces prières ou une autre, si vous le désirez. Et on sera conduit ensuite par l'équipe de chant dans un chant d'adoration ensemble.